Alors, je vous remercie de cette reprise de séance. Donc, on m'indique de parler plus fort. Alors, est-ce que là, vous m'entendez suffisamment bien? Bon. Non, vous ne m'entendez pas. Bon, écoutez, je vais forcer un peu. Bon. Alors, il s'agit d'une intervention à deux voix avec Sylviane Jeanpineau, que nous avions souhaité intituler « Mais que font les parents ? Aide à la parentalité, une histoire et des enjeux psychologiques, sociaux et politiques ». Donc, ce que nous avions souhaité, Sylviane Jeanpineau et moi-même, c'est nous entretenir avec vous de l'évolution, d'un point de vue tant quantitatif que qualitatif, de l'aide à la parentalité. Donc, ce que nous avons souhaité, c'est une association peut-être un peu surprenante, mais je pense fondée, entre une politiste, car je ne suis pas psychanalyste ou psychologue, j'ai une formation de sciences politiques, et d'une psychologue, parce qu'il nous est apparu que pour traiter du contexte et des enjeux de l'entrée de la parentalité dans le champ des politiques publiques, il serait souhaitable d'offrir ce double regard. Donc, concernant mon propos, moi, je parlerai de ce qui est ma position habituelle, c'est-à-dire une position d'expert des questions de politique familiale et petite enfance à ce qui était avant le commissariat général du plan et qui maintenant s'appelle le centre d'analyse stratégique, donc un point de vue d'analyse de l'action publique. Et Sylviane Jeanpineau traitera plus directement de la question de la prise en considération de l'inconscient et de la complexité des relations affectives dans les dispositifs d'aide à la parentalité. Alors, au cours de cette intervention qui essaye de comprendre comment évoluent les dispositifs d'aide à la parentalité, on présuppose une connaissance des dispositifs. On ne reprendra pas dans le détail l'histoire des maisons vertes au REAP, mais on essaiera de monter un petit peu sur quelles sont les valeurs et les référentiels de ces dispositifs aujourd'hui. Alors, à titre un peu d'introduction, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en France, comme dans de nombreux pays développés, on constate un développement des dispositifs d'aide à la parentalité qui s'est accéléré depuis une dizaine d'années, et ça en relation avec un investissement accru des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics sont plus présents et soutiennent ces dispositifs. Donc par là, la parentalité, comme terme générique, a accédé à un statut de catégorie de l'action publique, avec pour corollaire son intégration dans le champ des politiques publiques, des moyens supplémentaires, mais aussi une orientation vers des finalités qu'on va qualifier de macro-sociales. Ce que l'on peut dire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, dans certaines recommandations internationales, la parentalité positive. C'est un terme maintenant qu'on retrouve, notamment au Conseil de l'Europe. C'est devenu un objectif intermédiaire, cette bonne parentalité, pour atteindre un objectif final qui se rapporte à la cohésion sociale, à l'inclusion socio-économique des populations, voire à l'ordre public. Là, il n'y a pas de jugement de valeur, mais un souci de description. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'action publique? Donc, ce qu'on observe avec cette rencontre de la parentalité qui n'est plus prise comme un processus, mais comme une catégorie d'action sur les populations et l'action publique, c'est une double évolution à cette occasion. Une évolution quantitative sur le volume supposé de l'offre d'aide qui est proposée et une évolution qualitative. C'est-à-dire que la manière dont on pense cette action sur la parentalité, elle se redéfinit à la mesure d'une redéfinition de la question sociale aujourd'hui, avec notamment une réévaluation par les pouvoirs publics d'un risque d'inadaptation psychosociale précoce. Donc là, l'important dans l'intervention, c'est d'essayer de voir quel est le lien entre cette reproblématisation de la question sociale, sans doute dans des termes différents de la fin du XIXe siècle, comment elle se pose en ce début de 21e, et ce que ça fait à l'aide à la parentalité. Donc, quels sont les thèmes principaux aujourd'hui qui sont mis en exergue par les pouvoirs publics? C'est la résurgence de nouvelles formes de pauvreté, un risque de reproduction intergénérationnelle de cette pauvreté et une progression des comportements violents. Donc, cette priorisation, elle favorise, dans les actes, dans les faits de l'action publique, un ciblage des familles dites vulnérables, voire à risque, sous la forme d'un accompagnement socio-éducatif, au détriment des actions pour tous, d'inspiration plus psychanalytique. Donc, la référence à l'inconscient ou à la complexité des relations affectives reflue très nettement au profit d'une approche plus actuarielle, centrée sur l'identification et l'intervention, sur les facteurs de risque et les facteurs protecteurs ou de développement de l'enfant. Donc, pour saisir les changements dont est l'objet l'aide à la parentalité, changements de moyens, d'instruments, de paradigmes, il est intéressant de s'attarder sur les modalités par lesquelles l'État, les collectivités locales, les organismes de protection sociale, mais aussi les organisations internationales et européennes ont été amenés à s'intéresser, à soutenir dans la théorie, hein, les recommandations ou par des financements, les actions d'aide et de soutien à la parentalité. Donc, dans un premier temps, ce renouvellement de l'aide à la parentalité, il est le fruit d'un double effet. Dans l'action publique, on le légitime au titre d'une vulnérabilité des familles, d'une idée que des familles seraient en crise, mais simultanément, on voit que l'aide à la parentalité est un effet de la réforme des États-providence. C'est parce qu'aujourd'hui, l'État-providence s'offre de nouveaux objectifs qu'il s'intéresse à la parentalité. Donc c'est dans cette interaction, famille dite en crise et réforme des États-providence, qu'il y a à saisir cet essor et cet intérêt pour l'accompagnement à la parentalité. Donc ce n'est pas une réponse mécanique à un problème qui serait simplement celui des parents vulnérabilisés ou en difficulté, mais bien une solution qui est trouvée par là, par des États-providence confrontés à ce qu'on peut appeler un ordre post-industriel. Roland Gori a utilisé le terme de post-moderne, mais en tout cas, un nouveau compromis, une recherche d'un nouveau compromis entre capitalisme et bien-être des populations. Donc si on revient rapidement sur ce qui est l'argumentaire classique que la parentalité serait une priorité parce que les familles sont confrontées à des nouvelles difficultés, on retrouve ce qui fait les transformations récentes de la famille, le développement de la précarité socio-économique, l'instabilité des liens conjugaux, l'installation permanente des migrants et de leurs familles, un ensemble en tout cas de facteurs qui sont isolés comme jugeant être déstabilisants pour ces familles, des facteurs que ces familles maîtrisent peu ou mal. Donc là, on voit bien comment on renoue avec une approche gestionnaire du social, avec une parentalité fonction, facteur de risque ou de protection. C'est d'ailleurs comme cela que la parentalité est inscrite dans le budget de l'État. La parentalité est une action prioritaire qui est qualifiée d'accompagnement des familles dans leur rôle de parents au titre d'une mission de solidarité et d'intégration. Et je crois que c'est ça qui change. On n'est pas sur la parentalité processus ou la parentalité subjectivité du point de vue de l'État. On est sur un objectif intermédiaire pour atteindre un objectif macro. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire après de cette aide à la parentalité comme débouché de la réforme des États-providence et renouvellement de la question sociale? On a déjà posé tout à l'heure cette idée d'État social post-providence. Je crois qu'il est intéressant de voir les autres termes que lui apportent les théoriciens. Qui ont été les théoriciens? Ce sont des personnes, par exemple, comme Anthony Giddens, qui a été le grand inspirateur de la troisième voie, mais je pense aussi à Jacques Donzelot, hein, en France, qui a fait un travail important sur ce nouveau social et ce nouvel État, qui utilise alternativement le terme d'État responsabilisant, d'État social actif, d'État social préventif ou d'État social positif. Qu'est-ce qui change par rapport au précédent régime d'État-providence? C'est l'idée qu'aujourd'hui, les politiques de cohésion devraient être orientées vers l'avenir, viser à limiter les besoins de secours et d'indemnisation à moyen et long terme et accroître les ressources disponibles dans le futur. Donc ici, il ne s'agit plus seulement d'accompagner les vaincus ou les perdants de la mondialisation, par exemple aujourd'hui, mais de prévenir activement le risque et d'accroître les ressources, principalement sous ces termes qu'on connaît aujourd'hui de capital humain, qui a déjà été cité tout à l'heure, mais aussi de capital social. Alors, cet état social positif, ça c'est le terme de Giddens, il est aussi une tentative de solution face à un écart qui s'est creusé entre des réalités socio-économiques et des normes. Ce qui distingue sans doute le moment présent de la fin du XIXe siècle, c'est qu'à la fin du XIXe siècle, l'enjeu est de défendre la société, d'une part, mais aussi de stabiliser les membres de la société, les stabiliser à travers des hiérarchies sociales, à travers des corps, à travers des places, à travers des emplois. Ce n'est pas une société de la mobilité, ce n'est pas une société de l'égalité, ce n'est pas une société des opportunités. Le 21e siècle, quand ce début du 21e siècle, on est face, certes, à une dégradation des conditions socio-économiques, c'est ce qu'on perçoit tous les jours, et en ce moment, avec la crise, je crois que c'est notre ère quotidien, mais c'est dans un tout autre régime de normes. Le régime de vérité des sujets d'aujourd'hui, c'est que tous égaux, égalité des chances, pour tous des opportunités, pour tous mobiles, nous ne sommes plus cette société de l'assignation de la fin du 19e, et l'enjeu, c'est de produire la société et de faire société dans ce contexte. Donc l'idée de l'état social positif, c'est aussi de tenter cette réconciliation entre la réalité des 30 piteuses, chômage, résurgence de la pauvreté, pauvreté aussi suscitée par l'absence finalement d'ajustement aux modifications de la famille. Je pense au cas de la famille monoparentale. C'est-à-dire la famille monoparentale aujourd'hui est une figure par excellence de la pauvreté, et c'est une figure qui est jugée comme particulièrement source de soucis pour les pouvoirs publics, parce qu'on la pense comme le lieu de la reproduction intergénérationnelle de la pauvreté. Hein, ces familles pauvres ont créé la catégorie d'enfants pauvres, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, l'enfant pauvre étant celui qui risque d'être privé justement d'opportunités, qui risque d'être confronté à l'hérédité sociale, à la reproduction. Donc l'idée, c'est d'essayer d'investir autrement, d'investir dans les personnes, de les équiper dans ce qu'on peut appeler un social de compétition, dans un contexte de transformation évidemment de l'économie qui sort d'un régime post-industriel vers ce qu'on appelle l'économie de la connaissance et des services. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots de cette économie de la connaissance et des services ? Elle est cette économie qui est promue par l'Union européenne comme étant le destin de nos sociétés développées, notamment le destin de la France. Et c'est ce qui a été, je dirais, scellé par la stratégie de Lisbonne. Alors, bon, je pense qu'aujourd'hui, le terme est assez familier, mais il faut rappeler que face aux mutations qui étaient connues au niveau socio-économique, l'Union européenne, en 2000, a adopté une stratégie qui s'appelait la stratégie de Lisbonne pour relever le défi d'une économie de la connaissance et des services, d'une montée en gamme des qualifications. Il s'agissait d'amener tout le monde, par la formation, par l'éducation, vers une autre manière de travailler, une autre manière d'être en société et surtout d'être capable de faire face à un contexte de compétition économique accrue. Donc ce contexte très général, ça a été un contexte dans lequel on a commencé à développer des théories sur par exemple les capacités, mais aussi les techniques du soi. Et on voit bien qu'au niveau de la théorisation, pas au début des années 2000, mais au courant des années 2000, il y a eu un intérêt pour des dispositifs qui préexistaient, qui étaient des dispositifs d'aide à la parentalité, en se disant, mais finalement, si on veut investir dans les personnes, le meilleur lieu, le meilleur moment, c'est l'enfance, la famille. C'est là que se fabriquent les sujets. C'est là que se fabrique la main-d'œuvre future, les futurs apprenants. Donc il faut s'intéresser à l'enfance. Et il faut s'intéresser à ce qu'on entend aujourd'hui, par exemple, comme l'éducation informelle. C'est-à-dire, le capital humain, on ne peut pas le développer que par l'éducation formelle. Il faut aussi s'intéresser à l'éducation informelle, c'est-à-dire à la sphère familiale. Et on pourrait même dire à l'intimité des familles. Donc pour appuyer ce propos, je prends une simple citation du Conseil de l'Europe qui en 2006 a édité une recommandation relative aux politiques visant à soutenir la parentalité positive. Et ce qu'il dit, c'est qu'au regard des changements sociaux actuels, la parentalité, tout en restant liée à l'intimité familiale, devrait être considérée comme un domaine relevant aussi des politiques publiques. Domaine relevant des politiques publiques parce que c'est là que se trouve un levier principal du bon développement de l'enfant, avec cette idée générale qu'aujourd'hui notre principale richesse en tant que société développée, alors que les industries sont parties dans les pays émergents, c'est notre capital humain. Donc je crois que c'est vraiment dans ce contexte global où à la fois on est face à une idée qu'il faut s'enrichir par nos hommes, où la population reprend un caractère de richesse fondamentale et qu'en même temps, on a des idéaux, je dirais, d'égalité, de mobilité, qu'il faut essayer de combler l'écart par de nouvelles politiques. Et ces politiques de la parentalité, elles vont peu à peu apparaître comme un des leviers, comme par ailleurs aujourd'hui l'intérêt aussi pour les modes de garde de la petite enfance et tout ce qui est globalement l'intérêt pour la prévention précoce ou l'investissement précoce dans les individus. Donc qu'est-ce que l'on peut après compléter sur cet état social positif ? Finalement, il construit un idéal de parent responsable, qui est un parent à la fois compétent et disponible vis-à-vis des enfants, qui est aussi capable de soutenir les enfants socialement et économiquement. Et là, ça tourne le regard vers les groupes sociaux qui aujourd'hui sont censés être le plus éloignés de cet idéal. Évidemment, ce sont les groupes les plus défavorisés. dont l'idée est, par exemple, de mettre en œuvre un ciblage. Parce que l'autre problème de cet état social positif, c'est aussi de continuer à faire du social et de l'accompagnement dans un contexte où les ressources sont contraintes, contraintes par la compétition entre les États, contraintes par la compétition économique, et qu'il s'agit à ce moment-là de doser au mieux les coûts et les bénéfices des interventions. Quand on parle aujourd'hui du ciblage, les responsables publics vous disent « Mais attendez, on sait qu'il y a un cumul des inégalités et des handicaps sociaux sur certains groupes. Le meilleur rapport coût-bénéfice, c'est de mettre les moyens sur ces populations. » Avec le risque qu'on entend de manière générale, qui est le risque de stigmatisation. Mais là, il y a vraiment l'aspect du réalisme. Les ressources publiques sont limitées. C'est là qu'est le lieu, finalement, du décrochage, des décrochés sociaux. Donc, il faut les cibler, d'autant plus qu'aujourd'hui, les savoirs, le champ académique, l'expertise, nous attesteraient qu'il y a bien des trajectoires particulièrement défavorables et une situation de cumul. Donc, c'est par là qu'on s'éloigne, je dirais, et d'un référent de l'inconscient, parce que là, on est sur un référent du capital, et d'un référent de l'action pour tous, parce que l'idée du ciblage, c'est l'idée de l'efficacité. Donc, dans un temps 2, j'aimerais aussi mettre en avant que la parentalité, donc solution et problème pour l'état social actif, il y a aussi une deuxième dimension qui est que l'accompagnement à la parentalité est aujourd'hui revisité par le fait que la réflexion sur l'état social actif est une réflexion qui est internationalisée et qui est européanisée. C'est-à-dire l'état social actif est porté par une réflexion des organismes internationaux, l'OCDE, l'organisme aussi l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, au niveau européen, la Commission européenne, mais aussi le Conseil de l'Europe. Et là, on voit qu'ils vont aller chercher dans des ressources académiques qui ne sont plus les ressources de la psychanalyse. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on lit les rapports OCDE, OMS, Conseil de l'Europe, je ne vois jamais une citation à Dolto. À la limite, j'ai une vulgate peut-être de Dolto sur l'autonomie, sur le respect de l'enfant, sur la parole, le non-recours à la violence. Mais ça n'est pas pensé, ça n'est pas porté par une idée d'inconscient. Mais c'est porté d'une part par un renouveau des sciences de l'éducation. Ça, c'est une des ressources principales. Donc, sciences de l'éducation, c'est l'idée que l'activité des parents avec l'enfant est une activité éducative. Donc, il y a fusion de l'éducation formelle et informelle. Et pour la France, je renverrai à Paul Durning, hein, qui est le président de l'ONED, et qui, à travers ses ouvrages, et aussi ceux des autres chercheurs en sciences de l'éducation de Paris 10, ont amené en France et diffusé des savoirs qui étaient plutôt développés dans la sphère nord-américaine. Et en partie en Belgique. Donc là, on a plutôt cette idée des habiletés éducatives, l'idée des compétences, l'idée des capacités. C'est le modèle métier. Sur une autre ressource, c'est tout ce qui relève des études développementales. Et on a cité tout à l'heure Richard Tremblay. Donc là, on est sur un modèle, je dirais, syncrétique. C'est un modèle de développement bio-psycho-social des enfants. Et ce qui est mis en avant ici, c'est la notion de trajectoire. La notion de trajectoire souligne une période sensible, une période critique. Donc l'idée, là, c'est vraiment prévenir, diagnostiquer, intervenir tôt pour déjouer la trajectoire défavorable. Donc là, je ne reviendrai pas, mais ce qui est mis en avant, c'est qu'on va avoir un cumul sur certains publics de problèmes qui sont des problèmes sanitaires pendant la grossesse, qui sont des problèmes d'incompétence ou de déficit de stimulation de l'enfant dans la première période et qu'il s'agit de compenser, visite à domicile, soutien ou recours à des professionnels. Donc ça circule évidemment en France, parce que on peut prendre l'exemple de KPDP, qui est une expérimentation qui est menée aujourd'hui en France, qui est centrée sur le suivi des femmes première grossesse qui sont isolées avec un enfant et qui vont faire l'objet, je dirais, d'une aide qui est cette aide sur l'ensemble des champs, santé, éducation et aussi rupture de l'isolement social. Donc ces nouveaux référentiels, il se justifie toujours maintenant sur le lien de « il faut investir bien, il faut investir efficacement, il faut investir de manière à ce que ça puisse être évalué ». Et ça, je n'ai pas détaillé ici, mais on voit bien qu'on a une intensification, je dirais, de cette référence à ce modèle, à d'investir tôt, d'investir efficacement, depuis les années 90. Donc moi, je vous renverrai par exemple aux déclarations qui ont été faites par l'OMS sur les interventions précoces auprès des enfants et des familles comme le meilleur levier pour prévenir la violence. Ça, c'est 96, réitéré 2002. J'ai déjà cité tout à l'heure Conseil de l'Europe de 2006. C'est repris aujourd'hui, depuis 2007, par l'Union européenne avec la stratégie européenne sur les droits de l'enfant, qui va aussi dans ce sens. Et au niveau des pays, je crois que c'est le Royaume-Uni qui s'est vraiment lancé de manière très intense sur ce thème, avec des livres verts, Every Parent Matters ou Every Child Matters, hein, depuis les années 2000, sous Tony Blair, et aussi la Belgique qui, depuis 2006, s'engage dans ce type de stratégie. Alors, pour conclure très rapidement, est-ce que l'on peut, à cette aune-là, reparler d'un 19e siècle? Parce que je crois que c'est quand même ça qui nous fait souci. Est-ce qu'on revient vers des sociétés de contrôle avec des populations dangereuses et l'idée qu'il faut défendre la société? Moi, j'ai envie de dire qu'on est face sur quelque chose quand même de sans doute différent, parce que moi, j'aime bien le terme de Jacques Donzelot sur l'idée d'un social de compétition et son rappel que le social, ça s'invente à la fin du 19e comme un compromis. Un compromis entre les exigences de système du capitalisme et les exigences de bien-être, mais aussi de propriété de soi, des populations. Et il est évident que ces politiques ne peuvent pas être présentées que comme des politiques de contrôle social, parce qu'elles disent toujours qu'elles jouent sur un désir, qui n'est peut-être pas, ou sans doute pas, le désir que mettait en avant Dolto, mais un désir de progresser, un désir des individus de mobilité, un désir de satisfaire à une aspiration à l'égalité des chances. Et là, peut-être que ça pose un problème spécifique sur la question de l'affiliation, à une famille. C'est qu'on retrouve dans de nombreux travaux aujourd'hui sur l'enfant et le petit enfant, la figure, j'allais dire, de l'injustice. Parce que l'aléa de la naissance apparaît comme l'aléa le plus handicapant, le plus déterminant pour la poursuite de la vie. Là, finalement, où l'égalité des chances trouve sa limite. Et il y a quelque chose qui apparaît comme finalement peut-être difficile à supporter en termes de justice sociale. Mais cet enfant des travaux des politiques sociales, sur lequel il faut investir, pour lequel il faut remédier au risque d'inégalité des chances ou de perte d'opportunité, ça n'est jamais un enfant de famille. C'est un enfant qui vit dans une famille, mais c'est pas un enfant de famille au sens né de, avec une histoire familiale. Et c'est peut-être là qu'il y a un oubli, mais qui en tout cas n'est sûrement pas le contrôle social ou l'assignation sociale de la fin du 19e, de mon point de vue.
Alors, merci beaucoup à Marine Boisson pour ce panorama qui nous montre bien comment le monde de l'effectivité produit à la fois ses causes et ses effets et ne peut tourner que s'il élimine l'affectif et l'inconscient. Je donne la parole à Sylviane Giampino.
Alors ce titre « Mais que font les parents ?» évidemment est une allusion à d'autres acteurs. Je voudrais quand même commencer par expliciter un positionnement. La psychanalyse n'a pas un savoir éducatif en ceci que le refoulement ne se commande pas et que l'inconscient ne s'éduque pas. Mais son travail d'écoute à des fins thérapeutiques des enfants et des adultes ne prend sens que dans une contextualisation et une historicisation du symptôme auquel nous tenons beaucoup. Or, à l'écoute à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective. La psychanalyse jouxte le champ de l'éducation dans la mesure où elle se tient à l'écoute du sujet de l'inconscient, mais aussi des discours du social, donc du politique, dans lequel le sujet est plus ou moins violemment aliéné. Alors ce social, il agit à travers des lois, une organisation de l'environnement et des modes de vie des enfants. Le social est un corps qui a des représentations de ce qu'est un enfant et de la place à lui accorder. Actuellement, le problème est aggravé du fait que le politique parle, mais ne pense pas beaucoup, et qu'il réagit. Un fait divers, un accident, entraîne une loi, un acte, un protocole, une évaluation, etc. Serions-nous dans une pathologie de l'agir ? Pourrions-nous parler là d'un trouble des conduites, en quelque sorte ? Pauvre famille, aurait pu être ce titre. Famille aujourd'hui l'objet de toutes les attentes et de tous les reproches. Tantôt idéalisée comme valeur, qui arrive en premier dans les sondages des Français, tantôt diabolisée car elle serait le maillon faible par lequel notre société aurait perdu ses repères. Le « Famille, je vous hais » de mai 68 sur les murs s'écrirait-il aujourd'hui « Famille, tu ne peux plus compter que sur toi ». Démissions éducatives, carences de surveillance, perte d'autorité paternelle, dysfonctionnement des interactions mère-enfant, etc. Au point qu'on a mis en place des systèmes de sanctions parentales et qu'il soit question de proposer bientôt des stages de compétences parentales. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre des actions de soutien à la parentalité que Marine Boisson et moi-même soutenons dans leur fondement, je dois quand même le préciser, et je remercie à Marine Boisson d'avoir accepté de vous présenter comment c'est pensé au niveau des politiques publiques, hein, et de nous permettre d'avoir des outils aussi pour nous représenter nous-mêmes comment peut fonctionner ce système de pensée. Quelle différence entre ces actions et ces fameux stages, et puis cette évolution nouvelle du soutien à la parentalité? C'est que dans le premier cas, il y a une prise en compte effectivement des interférences de l'inconscient et des difficultés du vivre familial. Dans les seconds, la relation parent-enfant est conçue sans contexte, sans histoire. Elle est psychologisée, pédagogisée. Le modèle professionnel des interactions parent-enfant forclôt les enjeux symboliques de la filiation. Dolto nous manque. Psychanalyste et citoyenne, elle nous inspire et nous soutient. Mais quand même, Dolto, comment s'en sortirait-elle aujourd'hui du paradoxe qui est le nôtre ? Entre une clinique de la subjectivation et une citoyenneté qui consiste à dire halte à la subjectivation, à la psychologisation de tous les problèmes, car nous en sommes là, nous, psychanalystes, aujourd'hui, dans ce paradoxe. Il y a encore 10 ans, nous, les cliniciens, demandions au social, aux institutions, de prendre en compte la subjectivité, de personnaliser. Et là, nous étions en 3 lignes avec notre clinique. Cette subjectivation, où le sujet est renvoyé à sa part de responsabilité dans ce qu'il vit, c'est notre clinique. Au sens du choix inconscient, dont la version extrême est énoncée dans Dolto sous la forme du « tu as choisi de naître » et son idée que le sujet précède à la conception. Un être humain, dit-elle, est une parole non dite entre 2 êtres qui s'étreignent et c'est la parole non dite qui prend la forme d'un être humain. Une sorte de sujet du désir flottant, non identifié au départ, qui choisirait de s'incarner dans l'enfant de ses parents-là, donc. Aujourd'hui, on n'ose plus dire ce genre de choses ailleurs qu'ici, de peur de voir décréter qu'avant de naître, l'enfant serait capable de discernement et pénalement responsable de ses actes. Alors le social réagit concernant la famille au sens, vous l'entendez bien sûr, réactionnaire. Pour preuve, le retour du discours nostalgique d'un âge d'or perdu de la famille sur l'autorité, sur le rôle de père, sur la place des femmes et des mères, du travail avant tout, et j'en passe. Il repose ce discours nostalgique sur un déni de réalité. Les enfants sont plus intelligents, meilleure santé physique, plus ouverts sur le monde, plus précoces dans leurs apprentissages, leur langage, leur socialisation. Dolto avait raison. Oui, c'est un progrès. Oui, parler, c'est vivre. Oui, l'éducation par l'intelligence, sans le dressage et la répression, porte ses fruits. Les pédagogues aussi, comme Freinet, Deligny, Montessori, avaient raison. Ne nous laissons pas gagner par le doute, contaminés par cette idéologie de l'invalidation des bienfaits des relations entre les humains, enfants, parents, professionnels. Cette invalidation de l'histoire de nos services, de nos institutions, de nos pensées, de nos outils de travail, au profit d'une idéalisation de la nouveauté qui n'est en fait qu'un collage de nouvelles images sur des vieux modèles, notamment de la famille. Réactionnaire conception de la famille d'aujourd'hui, car elle dénie l'évolution des hommes et des femmes, changement aussi dans leur façon d'être père et mère, dont on peut sûrement se féliciter. Oui, la famille se porte bien. On parle actuellement de famille en crise, en mutation. Je trouve au contraire qu'elle va plutôt mieux. La famille est l'institution qui a le plus démontré sa capacité d'évolution et d'adaptation. Quelle autre institution pourrait en dire autant ? Elle se décompose, certes, mais elle se recompose et se modifie de façon de plus en plus mobile. Elle réinvente des formes du vivre ensemble, de faire famille ensemble. Il faut de l'intelligence et du cœur pour vivre en couple avec les enfants que l'on n'a pas conçus ensemble. Il en faut aussi, quand on est une belle-mère plus jeune que sa belle-fille, pour maintenir des repères sur la différence des générations. Il en faut beaucoup quand un père se résout à assumer son homosexualité, partir vivre avec un homme, garder de bonnes relations avec ses enfants, s'en occuper vraiment, comprendre la blessure infligée à son ex-épouse et la soutenir pour qu'elle se reconstruise. C'est notre clinique. On conviendra que ni l'intelligence ni le cœur ne manquent à ces familles. Alors, cette parentalité, il y a des pièges à utiliser ce concept. Ces pièges sont ceux de la parentalisation du couple. Ce concept prend une place importante dans nos représentations et dans notre langage, et il a le mérite de porter une représentation égalisante des places et des responsabilités entre les hommes et les femmes. Ce terme représente dans le domaine éducatif et social la facilité de nous tenir à l'écart de la délicate question de la différence des sexes et des rôles à l'intérieur de la famille. Car il est d'évidence plus aisé que de s'aventurer de ce côté-là. Je vais évidemment les ramener, ces sujets, pour rappeler l'importance du couple face à l'avènement de la filiation. Le sexe même de l'enfant né fait que pour chaque enfant, le père et la mère ne sont pas égaux dans les bouleversements suscités par son arrivée. De plus, ce terme de parentalité élude la notion de famille, à savoir les liens intergénérationnels, verticaux, et les liens horizontaux, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, etc. Et puis, ça structure l'enfant de ce savoir originé de deux lignées. On sait comment l'annonce de la grossesse et la réaction de l'environnement s'engramment dans l'album des bons et mauvais souvenirs symboliques pour l'enfant. Enfin, ce concept de parentalité laisse entendre que c'est l'enfant qui fait la famille et ça pervertit la portée symbolique de la procréation. Est-ce du fait de la perte d'espoir en un futur meilleur ? L'enfant devient la priorité des désirs et des plaisirs parentaux ? Et leur narcissisme va se nourrir de lui. Il est beau, il est intelligent, il va bien. Donc, je réussis ma vie. Alors, ce ne sont plus les parents qui indiquent le sens à la vie pour leurs enfants, mais l'inverse. Les enfants pâtissent de ces inversions de sens et de position du désir de vie. Ils portent alors le poids d'une place qui n'est pas la leur. Or, il est sain de se souvenir qu'avant les enfants, il y a déjà un homme et une femme, un couple, puis un désir d'enfant, puis la vie avec les enfants, puis, si tout va bien, encore deux, ensuite, quand les enfants vivent leur vie. Alors, du côté des femmes et des mères, on pourrait dire qu'aujourd'hui, les femmes pourraient dire « je ne suis plus la mère que vous croyez », parce que les gens changent, évoluent. Si les femmes se sentent en défaut ou en excès par rapport à leurs enfants, si on les trouve plutôt inquiètes, ce n'est pas parce qu'elles sont incapables de donner autant que les mythiques mères d'autrefois. C'est qu'aujourd'hui, leur maternité est moins collectivement régulée, davantage médicalisée, et que le lien mère-enfant est trop surveillé, mais pas assez soutenu. On a ce paradoxe que nous nous trouvons en face en France, dans cette situation, à savoir que la maternité se porte de mieux en mieux, vous savez qu'on est des championnes, on travaille plus que les femmes des autres pays et on fait plus d'enfants. Tandis que les mères, elles, sont de plus en plus fatiguées. Alors, je voudrais rappeler que la fonction maternelle a son éthique, qui est l'art de se rétracter pour ouvrir de l'espace et des autres à leurs enfants. La fonction maternelle est relative, car elle est multiple, complexe, et c'est tant mieux. C'est en cela que la sacralisation du lien mère-enfant, présentée en psychologie d'orientation nord-américaine comme une adéquation des comportements, est une version revisitée de l'instinct maternel. La bonne mère est présentée comme celle qui est capable d'un emboîtement béat aux signaux de son nourrisson. Il n'y a plus qu'à y ajouter la touche d'amour maternel absolu, comme la chantilly sur le sorbet, et l'on se retrouve avec trop de mères atteintes d'une crise de foi. Elles ne savent plus à quel sein, écrivez-le comme vous voulez, à quel sein professionnel se vouer pour se conformer à cette idéalisation du lien mère-enfant. Voyons du côté des hommes. Les hommes aujourd'hui pourraient dire « je m'aime en père ». Sous les assauts répétés du féminisme, de la parité, de l'évolution des femmes vers l'égalité professionnelle, de l'évolution des rôles parentaux, on entend monter la plainte des hommes et la revendication des pères. Ainsi formulable, c'est, je cite, « les femmes veulent tout, elles ont pris le pouvoir dans la société, la pensée dominante est féminine, refusons la castration, engendrons ». Mais est-ce... C'était un forum des hommes. Mais est-ce vraiment une bonne nouvelle, ce désir d'avoir un enfant pour répondre à un malaise? Là encore, une maldonne. Parler de crise du masculin, c'est prendre le symptôme pour la cause. Ce n'est pas l'autorité masculine qui est battue en brèche, mais toutes les formes d'autorité traditionnelles qui aujourd'hui sont mises à mal, au sens où ce sont les formes d'autorité assises sur un statut de droit ou de nature. L'autorité aujourd'hui, l'autorité hiérarchique, l'ancienneté, le rang sont supplantés aujourd'hui par le mérite, la négociation, le contrat temporaire, le pouvoir d'influence. Les hommes ne sont pas les seuls révélateurs du mal-être moderne. Et si le rapport homme-femme est endolori, c'est que les rapports sentimentaux, quels qu'ils soient, sont socialement malmenés aujourd'hui. Prenons l'exemple de l'idéologie dominante de l'autonomie, de l'indépendance. Elle se combine très mal avec l'arrivée d'enfants dans un couple qui détermine de fait des liens de dépendance. Il en est ainsi des rapports de la... Je vais reprendre. C'est parce que cette idée me tient à cœur. Je crois qu'on assiste aujourd'hui à une éradication du fragile dans la façon dont on pense les relations entre les humains. Et cette fragilité humaine n'a plus droit de citer ni au travail, ni à l'école, ni entre amis, ni même dans la vie à deux. Alors, les hommes avaient jusque dans les années 90 continué, comme depuis toujours, à investir dans le travail, la vie professionnelle, pour sécuriser leur famille et eux-mêmes. C'était l'un des passages ancestraux des sublimations du masculin, le travail. Aujourd'hui, il est barré avec les effets que l'on connaît. Une identité masculine qui subit une translation de la production vers la reproduction. Or, depuis que l'on parle aux bébés, et les pères d'aujourd'hui et les mères d'aujourd'hui sont des anciens bébés auxquels on parlait, les hommes comme les femmes sont de plus en plus sensibles et intelligents, donc de plus en plus complexes et multidimensionnels. Ils ressentent donc avec plus d'acuité les incohérences et les mutations du monde. Elles leur font violence et cette violence est mal identifiée. Le couple fonctionne donc sur de nouveaux paradigmes. Cela dit, hommes et femmes sont égaux dans la blessure. Pour les hommes, c'est au moment d'une séparation que la blessure se fait sentir. Les femmes sont à l'origine des ruptures majoritairement. La frustration en tant qu'homme s'accompagne en plus d'une privation en tant que père. Ils le disent fortement. En face, comme en miroir, les femmes expriment une double blessure, ici ressentie justement dans la vie commune, celle d'un quotidien qui ne tient pas les promesses d'égalité auxquelles elles ont cru. S'observe ainsi sur la scène des rapports hommes-femmes un face-à-face sociétal des rancœurs. Alors, j'en viens maintenant à la famille, au lien de filiation, et je cite cette phrase de Denis Vasse que j'avais entendue lorsque j'étais très jeune et qui m'accompagne dans ma pratique. « Le sens de notre existence s'éclaire à la lumière des rencontres de notre vie. Le sens de notre existence, c'est la donne, c'est la filiation. » Je ne vais pas développer, mais je vais laisser la parole à deux enfants, simplement pour, je crois qu'ils parleraient mieux que moi. Le petit Julien qui dit « Je suis triste, mais je ne suis pas malheureux, parce que papa, il dit que c'est dur de s'occuper tout seul de nous trois, mais qu'il préfère maintenant parce qu'il n'y a plus de bagarre dans la maison. Et maman, elle dit que maintenant, elle préfère sa vie. Moi, j'ai ma famille, puisque je vais chez papa et chez maman, avec mes petits frères. Quand je suis malheureux, c'est quand je pense aux parents de papa qui sont morts, et moi, je n'ai pas de grands-parents et je ne les connais pas. Et comme papa, il est malheureux qu'ils ne soient pas connus, mes grands-parents, alors il ne me raconte pas ma famille. Et moi, s'il me racontait plus, j'aurais ma famille. » Autre parole d'enfant, petite fille accompagnée par deux femmes. Lorsqu'elles vont dans la salle d'attente, je reste seule avec cet enfant qui me dit « J'ai pas de maman. J'ai maman et Joël. Mais je le dis pas, parce que maman, elle veut pas faire de peine à Joël. Parce que Joël, elle peut pas avoir d'enfant. Et maman, elle me partage parce qu'elle aime Joël. » Alors, le sens de notre existence s'éclaire à la lumière des rencontres de notre vie. C'est ça. Peut-être le soutien à la parentalité. Ce serait ce qui pourrait organiser des bonnes rencontres. Tout n'est pas prédéterminé. L'histoire familiale, les difficultés sociales ne sont pas une fatalité. Les professionnels devraient être ces bonnes gens postés sur la route d'un enfant. Une puéricultrice, une institutrice, un médecin. Ces rencontres peuvent soudain éclairer d'un nouveau sens les éléments de la donne d'origine. Nous savons tous que s'opèrent ainsi des basculements d'orientation psychique qui permettent aux enfants de sortir d'un destin. C'est là que le professionnel est convoqué. Un niveau de responsabilité de soutenir toujours l'émotion positive, de ne pas traquer le symptôme, le dysfonctionnement de la relation parent-enfant, les défaillances parentales. Faute de quoi, ce professionnel bien intentionné peut aussi avoir une fonction de stigmatisation, d'exclusion. C'est quand la rencontre est une bonne rencontre que l'enfant se sent différent dans ce nouveau regard. Alors, les institutions offrent une autre scène possible au scénario de la souffrance des familles. C'est peut-être en cela que c'est si grave, ces transferts d'informations entre les services, un peu trop recommandés par les lois. La bonne rencontre serait donc l'objectif. Encore faut-il que nous puissions revenir au soutien à la parentalité version humaniste, c'est-à-dire de là où est partie Marine Boisson. Dans le partage solidaire des expériences entre les parents, par les groupes de parole, etc. Aujourd'hui, elle est déviée vers des systèmes de propagation dans la sphère familiale des modèles de l'entreprise. Performance, rendement, coaching scolaire, psychologique. Rien n'est plus gratuit. Rien n'est plus pour de rire et pour de rien. Tout a une visée de stimulation, d'éducation. Les relations parents-enfants se pédagogisent. Elles y perdent leur âme. Le soutien à la parentalité mérite notre soutien. Parce que je crois que c'est une de nos bonnes idées en matière de prévention psychologique. À condition de ne pas les laisser se détourner de leur fonction première, que je voudrais rappeler, s'adresser à toutes les familles, pas de ciblage quand elles ont été mises en place. Être, s'appuyer sur le soutien, l'apport, le tissu, le lien des familles entre elles. Être mobile, souple, non directive, non contrôlante, mais invitante à la rencontre des parents. Dans un esprit de volontariat, c'est-à-dire qu'on ne prescrit pas une action de parentalité. Alors on le sait, aujourd'hui la famille porte le chapeau. La famille est sous pression, par réaction à des phénomènes qui la dépassent. Parmi ces pressions, en première ligne, la pression d'excellence. Renoncer, alors cette pression d'excellence, elle s'est inaugurée quand nous avons, nous les professionnels, accepté que, dans notre vocabulaire, de faire entrer la notion de parent compétent. Le parent compétent, c'est une sorte de mutant engendré par un autre mutant qui était le bébé compétent. Car le début de dérapage date, à mon avis, de là, vers le comportement maître à penser. L'incroyable monsieur bébé, l'enfant sujet, d'emblée être humain de langage et en devenir, quand nous avons lâché ça, quand on a lâché l'idée de l'intelligence humaine du bébé pour en faire un bébé compétent, on l'a amené, ce bébé, vers le performant, nécessitant des parents managers, rentabilisant, capitalisant le produit. Normes de qualité des comportements, ISO oblige. Alors, ce pouvoir éducatif que l'on surcharge au niveau des parents, il est de fait plus relatif que jamais il ne l'a été. Par la concurrence des influences de la consommation et des médias, je cite, la télévision pour les bébés, les valeurs compétition et exclusion de la Tarac, de la Starac et de Koh-Lanta, l'éducation parentale avec des implants, des prothèses, vous savez, les super nannies et autres grands frères. Quand on peut, la même semaine, relooker son appartement, transformer ses petits monstres en enfants sages, lifter son couple, pourquoi se priver ? Mais comme on se sent minable, nous, avec nos galères qui sont la vraie vie. Car dans cette salle, combien d'entre nous seraient représentatifs de ces populations cibles de ces programmes ? Peu, relativement peu. Et pourtant, est-ce que c'est si simple pour nous d'être des parents et de s'occuper de nos enfants ? Et est-ce qu'ils vont si bien que ça, nos enfants aussi ? Voilà, moi je pose la question. Le réap, lui, c'est pas du virtuel et du visuel. C'est normalement dans sa forme première incarnée. C'est ce que Dolto appelait de ses vœux une implication humaine, solidaire entre les parents et les animateurs de ces actions, si elles pouvaient garder leur esprit. Alors que faire pour soutenir la parentalité ? Vous l'avez senti, un peu de subversion à la Dolto, un brin d'insoumission ne nuit pas. C'est bien de la soutenir, la parentalité, mais encore faudrait-il ne pas commencer par l'abîmer. Vous le savez, les institutions et les professionnels, nous produisons de la violence. Alors, non, pas de population cible. On ne peut pas confondre difficultés des familles et familles en difficulté. Le soutien à la parentalité devrait être comme une valse à trois temps. Tout d'abord, ce premier temps des conditions pour grandir. Faire en sorte que nous élevions des enfants dans des conditions suffisamment bonnes pour leur développement, leur équilibre. Deuxième temps, être là, soutenir dans les moments délicats de la vie ordinaire, les passages perturbés. Troisièmement, être là dans les accidents, les gravités de la vie. Professionnels et parents, nous sommes dans le même navire. Nous, professionnels, notre vocation, c'est d'être des acteurs du soin, de l'éducation, du social, et donc de prévenir, soigner, aider pour lutter contre la souffrance psychique. N'est-il pas insupportable de voir s'imposer en France des idées, des théories, des méthodes d'éducation et de soins qui sont iatrogènes, pathologiques ? C'est le mensonge idéologique qu'elles véhiculent, qui les rend porteuses d'angoisse pour les parents et pour nous-mêmes. Or, qu'est-ce que ça fait tout ça aux enfants ? Ça les régresse vers une nécessité de bébé, l'illusion du faire vivre sa mère, celle de la covivence, comme disait Dolto, dont il doit pourtant s'extraire pour évoluer. Dolto avait une autre expression, elle disait « l'enfant sans coquille ». Aujourd'hui, nous avons des enfants qui s'encoquillent, quel que soit leur âge. C'est vrai ce que disait la défenseur des enfants, il ne faut jamais l'oublier. Un enfant est enfant jusqu'à 18 ans. Et l'enfant vit sous la menace de perdre la fiabilité de son entourage quand celui-ci est dépressif ou répressif. Parents et professionnels se reprochent en miroir qu'on leur demande toujours plus, mais on en demande toujours plus à tout le monde. Soumis à l'exigence du social, parents et professionnels sont sans cesse à vérifier que l'enfant, son état, sa santé, sa réussite valident ce que les adultes font. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je crois que parents et professionnels doivent faire un double deuil. Le premier deuil est celui de cette merveilleuse illusion de la modernité. Ce rêve en la connaissance qui, depuis les années 60, nous a fait croire que plus on allait savoir de choses, plus on saurait bien faire avec les enfants. Actuellement, on sait qu'on sait des choses, mais on est tous dans la connaissance, un peu trop inondés parfois. Mais finalement, on s'aperçoit qu'on peut de moins en moins faire tout ce que l'on sait qu'il faudrait faire. Et du coup, les modèles et les idéaux sont totalement inatteignables. Avant, je ne sais plus qui a dit cette phrase géniale, on était parents, on faisait des bêtises mais on ne le savait pas. Aujourd'hui, on fait des bêtises et on le sait et c'est nettement plus difficile à vivre. C'est pareil pour les professionnels. Ils sont de plus en plus compétents, ils savent de plus en plus de choses, ils sont très engagés, etc. Et pourtant, il y a toujours cet écart. Le deuxième deuil, c'est celui d'un passé nostalgique à ce qui n'a jamais existé. Une époque imaginaire où l'ordre familial et social aurait régné. Celui-là était plutôt celui des claques, des coups de ceinture, de la trouille de l'instituteur, etc. On ne peut pas tout renier en regrettant le manque de sanctions dans l'éducation d'aujourd'hui. Plutôt que leurs oppositions, ce qui saute aux yeux aujourd'hui, c'est à quel point parents et professionnels sont dans le même bain. Car ils se tiennent au plus près des enfants. Alors c'est vrai, les enfants sont remuants, émouvants, dérangeants, questionnants. Ce sont des ralentisseurs humanisants. Notre monde occidental actuel, technologique, assoiffé d'accélération, de maîtrise, d'efficacité, ça a été bien développé tout à l'heure, rabat la question du sens et les enfants la relèvent. C'est en quoi on devrait commencer par calmer le jeu. C'est l'espoir des parents en l'avenir de leurs enfants qui enthousiasme les enfants et les porte vers l'avant de leur propre devenir. Je crois que c'est l'un des messages que je retiens de Dolto. Soutenir encore toujours la dynamique du désir, l'allant devenant de l'enfant dans le génie de son sexe. Eh bien, si c'est une illusion, considérons que c'est une illusion nécessaire. Et si c'est un rêve, eh bien, peut-être que ça pourrait être la seule réalité psychique qui vaille. Soutenir la parentalité, c'est ne pas éteindre en nous et en les parents qui nous font confiance le rêve d'un bel avenir pour les enfants.
Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre Sylviane nous redonner le droit à la fragilité, entre autres choses qu'elle a dites. Normalement, on n'a pas de temps de débat, là, parce qu'on a rendez-vous avec celle qui nous emmène, là, depuis 2 jours, et dont on voit bien à quel point la pensée est actuelle, mais on peut se donner 5 minutes, pas plus, si vous voulez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose de très important à dire ? Non. Où ça ? Là ?
À droite. Je crois qu'il y a des micros. Je crois qu'elle balade les micros.
Où sont les porteurs de micros ? Ah oui, parce que c'était pas prévu. Oui, c'est pour ça qu'on n'en a pas. Voilà, voilà, attention, doucement, te casse pas la figure. Pour autant, voilà, là, il y a quelqu'un qui veut parler. Je vous rappelle qu'on a très peu de temps.
Monsieur Serge, je suis médecin de PMI en Seine-Saint-Denis. En 5 minutes, je vais pouvoir dire que des choses futiles et pas des choses importantes. Mais on parle depuis ce matin, est-ce qu'on est au 19e ou au 21e siècle? Vous avez abordé la question du ciblage, etc. Il faut savoir sur quoi reposent aujourd'hui les pratiques qui sont proposées, qui arrivent en France. Vous avez parlé de KPDP, vous avez parlé d'un certain nombre d'autres choses. Ça repose sur un certain nombre de théories qui sont développées notamment outre-Atlantique, dites de l'écologie du développement, qui en gros indiquent que les experts savent quelles sont les trajectoires de développement, bonnes ou mauvaises, qui vont affecter les individus. Alors je voudrais vous faire quelques citations. Je sais que c'est pas bien de faire de la pub, mais de temps en temps, faut quand même savoir sur quoi se basent ces théories et ce qu'en disent leurs promoteurs. Donc c'est extrait du livre de Richard Tremblay qui est paru en France il y a pas très longtemps. Plusieurs choses, mais tout converge sur le déterminisme absolu dans toutes les dimensions. Le déterminisme social, il écrit « La colère et l'agression semblent tenir de famille. La pauvreté, la dysfonctionnalité, la monoparentalité familiale sont des prédicteurs pour les problèmes de colère et d'agression au cours de la petite enfance. » Vous savez qu'il y a une étude récemment parue en France qui montre que les infanticides dans la première année ne sont pas attribuables aux catégories sociales. C'est une étude de Anne Turtz. Qu'est-ce que dit encore Richard Tremblay, qui est de l'ordre du déterminisme? Alors, c'est le déterminisme, neurobiologique et génétique. En fait, le sexe est le phénomène génétique qui semble le mieux expliquer les problèmes de colère et d'agression chronique. Le cerveau de la petite fille prend plus de plaisir quand il est confronté au comportement d'une petite fille de son âge que lorsqu'il l'est au comportement d'un petit garçon. Dès la petite enfance, les filles préfèrent jouer à des jeux de filles, les garçons à des jeux de garçons. Si vous observez de jeunes singes macaques, vous verrez qu'ils pratiquent les mêmes discriminations sexuelles que les enfants humains sans que leurs parents interviennent. Ça, c'est le déterminisme biologique. J'avance. Il y a une autre forme d'ignorance complète de ce qu'est le développement de l'enfant. C'est ce que j'appelle la loupe adultomorphique. On verra des agressions liées à la possession d'objets entre deux enfants de 9 mois qui rampent l'un vers l'autre. Aux criminologues qui semblent totalement ignorer ce que sont les humains avant la responsabilité légale, j'aime bien souligner que le vol, c'est-à-dire prendre à autrui ce qui lui appartient, commence généralement avant la fin de la première année. Dès qu'ils ont les mains libérées et qu'ils peuvent s'approcher ou s'éloigner de quelqu'un en courant, les enfants peuvent menacer, attaquer et s'enfuir. Vers 24 mois, un enfant au développement normal peut accomplir la majorité des actes d'agression physique d'un adulte. Je vous en passe, il y a des choses sur l'intentionnalité des enfants de 24 mois qui sont formidables. Je voudrais finir sur le déterminisme de l'évolution. Dans sa section consacrée à la rage, Darwin écrit « Quiconque a eu beaucoup à faire à de jeunes enfants a dû se rendre compte à quel point ils sont naturellement enclins à mordre quand ils sont en colère. » Ce comportement semble aussi instinctif chez eux que chez les jeunes crocodiles qui font claquer leurs petites mâchoires dès leur sortie de l'œuf. Darwin avait patiemment observé le développement de ses 10 enfants avant de se lancer dans l'analyse plus systématique des liens entre les émotions des animaux et celles des hommes. Pour Darwin, la raison et la passion de l'homme ne sont pas des dons d'un dieu, ce ne sont que des différences apparues au fil de l'évolution, mais dont les mécanismes de base appartiennent aussi à nos cousins, les grands singes, aux rats, aux oiseaux et même aux mollusques. Je voudrais juste finir là-dessus. C'est le 60e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Ça serait bien de ne pas les transformer en droits du mollusque homme. Et savoir que je crois que parmi ces droits, il y a un droit, je crois, qui traverse les journées depuis hier, qui est le droit à ne pas être assigné à un déterminisme mécanique dans sa vie d'être humain.
Merci beaucoup pour ce que vous venez de nous... Enfin, il vaut mieux regarder la réalité en face. Ça s'appelle une épreuve de réalité. Moi, je vous proposerai un peu de contrepoison maintenant, en écoutant Françoise Dolto. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Dolto. Oui, c'est ça, le contrepoison. Ce serait une petite louche de Dolto maintenant. Bah alors attendez, répondez, puis après, allez-y.
C'était pas vraiment une question, c'était plus une intervention, mais j'aimerais dire juste un mot. D'une part, j'ai voulu exposer, je crois que ça a quand même été compris. Après, quand même, qu'est-ce qui... le fameux cas Tremblay, hein, ce qui se passe en termes de réception avec les travaux de Richard Tremblay, c'est la mise en œuvre d'études longitudinales, c'est ça qui est présenté, et avec une dimension d'évaluation. Et là, je crois qu'il y a aussi un contrepoison, si on est dans le registre des contrepoisons à réfléchir. L'évaluation est souvent dénoncée parce qu'elle n'est pas considérée comme, dans sa globalité, c'est-à-dire au début, une discussion sur les critères. Est-ce que le champ psychanalytique peut être en force de proposition sur des critères, ces critères pouvant ouvrir à une évaluation, car aujourd'hui, l'action publique fonctionne à ce qu'on appelle l'accountability, c'est-à-dire l'imputation, et il n'y a pas d'économie possible de l'évaluation, sauf qu'il faut la prendre de manière proactive, c'est-à-dire être en proposition sur des critères. Parce qu'au jeu de la randomisation, c'est-à-dire bras comparés et résultats, il y a des points qui sont marqués de ce côté-là. Ça, c'est juste un fait et une invitation.
On est tous, les psychanalystes aujourd'hui, sont tous au travail sur la question de l'évaluation. Ce qui est ennuyeux, c'est que certaines personnes font comme si nous n'existions pas comme interlocuteurs lorsque des réflexions sont menées sur les critères et sur l'évaluation. Or, nous travaillons tous sur cette question.
Le défi de l'évaluation, c'est de pouvoir proposer quelque chose d'unifié, c'est-à-dire parler d'une seule voix pour faire entendre des critères.
Chose que Françoise Dolto disait, tous les enfants et d'ailleurs les adultes qui vont bien traversent des périodes où ils font symptômes. Donc les critères pour des êtres qui sont tout le temps en mouvance, c'est quand même très compliqué.